Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Gabriel Shapiro, qui a le plaisir de vous présenter le nouveau numéro de Chronique pour la paix. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'être en ligne avec Yehoshua Amichav, ancien diplomate israélien et politologue reconnu. Bonjour Yehoshua Amichav.
Bonjour et bonjour à tous nos auditeurs.
Depuis le 14 février, il y a quelques jours, Benjamin Netanyahou rend visite à Donald Trump à Washington. Avec toutes les promesses données par Donald Trump à Israël et les évolutions récentes de son discours, que doit-on retenir, selon vous, de cette visite officielle ?
Écoutez, je pense qu'il faut distinguer le personnel et le... Et l'aspect général de la situation au Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'au niveau des relations personnelles entre Benjamin Netanyahu et le président américain, le nouveau président américain Trump, il est évident, j'enfonce une porte ouverte, tout le monde l'a vu, tout le monde le sait, qu'on est dans un autre registre que celui qui a prévalu avec Barack Obama, où on a vu directement, pratiquement dès le début, que le courant ne passait pas au plan personnel entre les deux hommes. Alors on a tendance à dire que ce sont les grands processus et les grandes analyses géopolitico-stratégiques qui en définitive font la décision, c'est pas tout à fait faux, mais il faut se rappeler que les dirigeants politiques internationaux, les hommes politiques, sont des êtres humains comme vous et moi. Ils ont leurs affinités et leurs répulsions, ils ont leurs attirances et leurs défiances, et lorsque le courant ne passe pas entre deux personnalités politiques, ça complique encore, bien entendu, et ce n'est pas, c'est pas un exemple isolé. On se rappelle des relations très mauvaises qu'il y avait en son temps entre Jacques Chirac et Margaret Thatcher. Ce sont des choses qui n'ont certainement pas contribué à faire avancer les négociations au niveau de l'Union européenne. Et ici aussi, les relations qui n'étaient vraiment pas bonnes au plan personnel entre Barack Obama et Benjamin Netanyahu n'ont évidemment pas contribué à faire bouger quelque chose au Moyen-Orient. Alors ici, on a vu Benjamin Netanyahu être accueilli avec énormément de chaleur par Donald Trump. On a vu toutes sortes de petits gestes et de petites attentions qui montraient que Benjamin Netanyahu était vraiment un hôte attendu et désiré à la Maison-Blanche. Voilà, ça c'est pour le plan personnel. Maintenant, au niveau décisions et en tout cas des messages qui sont sortis de cette rencontre, je pense qu'on assiste à un flou complet pour le moment, c'est-à-dire que d'un côté, il y a quand même eu une petite bombe jetée par Donald Trump qui a dit « moi je peux vivre avec la solution que les deux parties voudront, ça peut être deux États, ça peut être un État ». Que jamais, bien entendu, un président américain n'avait dit, ni démocrate ni républicain. D'un autre côté, on voit depuis hier que tous les collaborateurs et les hauts fonctionnaires nommés par Trump, que ce soit aux affaires étrangères ou que ce soit à l'ambassadrice à l'ONU, toutes ces personnes s'emploient maintenant à dire que la solution des deux États reste la solution préférée de l'administration américaine. Alors, est-ce que Donald Trump a une fois de plus tiré sans regarder la cible, ou est-ce qu'il y a une division du travail entre le président et ses collègues pour créer une espèce de flou artistique et embrouiller un peu les cartes? Il est beaucoup trop tôt pour le dire. Mais moi, je retiens quand même que pour la première fois, un président américain envisage sérieusement la solution d'un État qui est, bien entendu, la fin de l'État d'Israël en tant qu'État juif. Et ça, c'est une remise en cause de tout ce qu'on a fait ici depuis 120 ans à peu près.
Il a dit également que les colonies ne relevaient pas de son accord formel, puisqu'il souhaitait un arrêt ou du moins une réserve sur les implantations, il ne les a pas condamnées.
Il ne les a pas condamnés, alors que chaque nouvelle construction était tout de suite condamnée par l'administration précédente. Mais si vous regardez bien, C'était des condamnations, il faut bien le dire, quand même assez platoniques, parce que lorsque vous condamnez 15, 20 ou 40 fois la même chose, à la fin, vous avez tendance à prendre une sanction aussi, quand même, à dire on ne peut pas se contenter tout le temps de condamner quelque chose. Or, l'administration précédente n'a rien fait jusqu'à cette fameuse abstention sur la résolution 2234 du Conseil de sécurité à quelques jours de la fin de la présidence Obama. C'était évidemment trop tard pour changer quoi que ce soit. Donc il faut quand même se rappeler aussi que l'administration précédente s'était montrée quand même très énergique en parole, on peut dire, mais très peu décidée à agir concrètement. De toute façon, ici aussi, vous avez raison de le dire, il y a un changement de perspective. Les localités juives de Judée-Samarie, Cisjordanie, chacun choisira le mot, la dénomination qui lui plaît, ne sont plus considérées à la Maison-Blanche aujourd'hui comme un obstacle majeur sur la route de la paix. Et c'est très certainement une bonne nouvelle pour beaucoup de monde au gouvernement et dans l'opinion publique israélienne qui ne partageait pas, bien entendu, les options de l'administration précédente. Ceci dit, des messages ont dû être transmis clairement à Benjamin Netanyahou, puisque effectivement, on sait que le président Trump lui a demandé de la modération, et il semblerait, et ça c'est plus spectaculaire, que la nouvelle localité promise par Benjamin Netanyahou aux personnes qui ont été évacuées de l'avant-poste illégal d'Amona il y a quelque temps, Benjamin Netanyahou leur avait promis de construire une nouvelle localité pour eux, et là, il semblerait qu'il y ait maintenant un grand point d'interrogation sur l'avenir de ce projet, et ça suscite déjà des remous, de l'inquiétude et des protestations, même ce matin, de la part des gens d'Amona et de leur soutien politique qui attendent que le Premier ministre concrétise ses promesses. Là, il semblerait qu'il y ait le début d'un problème quand même.
Est-ce à dire que la loi sur la régularisation des implantations illégales, votée par les députés qui, pour une fois, ont légiféré au-delà du territoire israélien, sera retoquée par la Chambre, enfin par les autorités judiciaires?
Alors, vous savez que cette loi a été extrêmement contestée, non seulement par le Parti travailliste et par l'opposition, mais aussi il y a eu des voix importantes de la droite israélienne et même de la coalition pour dire que cette loi n'était pas acceptable. Le député Benny Begin, député du Likoud, a voté contre la loi. Le président Rivlin, qui évidemment est tenu au devoir de réserve, mais qui reste une figure importante, figure historique de la droite israélienne, a dit que c'était une loi qui pourrait nous amener au tribunal international de La Haye, ce que d'ailleurs le Premier ministre Netanyahou lui-même a dit il y a quelques mois, quand il ne voulait pas que cette loi passe. Le conseil juridique du gouvernement, là on n'est plus dans le politique, mais on est dans le juridique, le conseil juridique du gouvernement refuse de défendre cette loi devant la Cour suprême, alors que plusieurs organisations ont donc saisi la Cour suprême en lui demandant de déclarer cette loi inconstitutionnelle. Alors tout le monde attend maintenant de voir ce que la Cour suprême va faire. Moi, je ne suis pas juriste. J'entends des juristes ici et là qui disent que cette loi peut être entérinée par la Cour suprême, mais la majorité des commentaires qu'on entend, y compris, je le répète, celui du conseiller juridique du gouvernement, qui n'est quand même pas n'importe qui, disent que cette loi ne peut pas être entérinée par la Cour suprême. Il faut attendre maintenant de voir ce que ça va donner. On ne sait pas exactement quand la Cour suprême rendra sa décision, mais il est déplorable, en tout cas moi en tant que citoyen israélien, je déplore qu'il faille saisir chaque fois la Cour suprême pour faire respecter des éléments de droit qui devraient aller de soi. C'est la situation qui est créée aujourd'hui, donc on attend les juges de la Cour suprême.
Merci beaucoup, Yehoshua Amichav. Merci pour votre
Je vous en prie.
interprétation. Avant que se termine l'émission, je voudrais rappeler à nos éditeurs que le lundi 27 février, une très très importante conférence aura lieu au CBL, 10 rue Saint-Claude, Paris 3e, métro Saint-Sébastien-Froissart, et qui réunira des politologues d'origine égyptienne, messieurs Bagat El-Nadi et Adel Rifat, sur le thème Les musulmans au risque de Daesh. Ainsi se termine l'émission Chronique pour la paix. Je vous invite à aller sur notre site Chronique pour la paix, lapaixmaintenant.org, et vous y retrouverez des informations sur le conflit israélo-palestinien. Avec vous, Monsieur Amichav Yehoshua, Gabriel Shapiro vous souhaite Shabbat Shalom à toutes et à tous, et à dans 15 jours.